mais qui ne constitue pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la ville, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Et ben voilà, bonjour pour ce premier Canu Info du jeudi de l'année 2017. Nous vous souhaitons donc à toutes et à tous une très bonne année.
Bonne année, bonne année. Voilà,
donc bienvenue en 2017. On peut quand même dire que l'année commence pas très bien, voire mal, puisqu'on a déjà eu notre lot de morts, même encore aujourd'hui. Hein, on a eu un petit attentat à Izmir, en Turquie, des morts en Syrie avec un petit attentat, la guerre au Yémen continue, et puis bon, c'est pas beaucoup plus glorieux ailleurs. On sent bien que cette année, avec cette guerre froide qui tend vers le tiède, va nous réjouir et nous faire plaisir. On sent bien aussi que les Américains, les Russes, les Chinois, les Français, hein, tiens, nous, bref, à peu près tous les pays ayant les moyens vont continuer d'espionner les autres, de développer les guerres, qu'elles soient réelles ou numériques. Bref, on sent qu'on va dans le bon sens. On sent bien aussi que les régimes autoritaires, comme la Russie, la Chine, la Turquie et bien d'autres, ne vont pas mettre en œuvre la démocratie directe cette année. Ça, on en a bien conscience. On sent bien aussi que l'année électorale française va nous réjouir, hein, avec AFN triomphant de haine et de mensonges, malgré de nombreuses poursuites judiciaires, hein, le record absolu en pourcentage pour un parti français. Avec un PS encore moins gauche, un Macron libéral au possible, un Fillon réactionnaire en diable, et un Mélenchon dont l'autoritarisme ne fait pas vraiment rêver. On sent bien aussi que les religieux de tous bords vont encore nous asséner leur morale fétide, vont encore se mêler de notre vie personnelle, vont encore nous juger, vous, nous, moi, toi, bref, vont se mêler de choses qui ne les regardent pas. On sent bien aussi que la planète est au bout du rouleau. Pour cela, il suffit de sortir de chez vous et de respirer ce bon air ultra pollué de Lyon pour se rendre compte, effectivement, que ça semble bien mal parti pour l'environnement, pour la planète. Et on remerciera d'ailleurs au passage, à qui on ne souhaite pas une bonne année, à Gérard Collomb, hein, puisqu'il ne fait toujours rien contre la belle pollution lyonnaise. Il semble être un aficionados de la pollution. Peut-être qu'il se fait des shoots de pollution. Bref, on sent bien que ça ne va pas être facile cette année. Alors passons quand même une heure ensemble. Une heure pour traiter de l'actualité du jour. On va commencer par parler des barbares qui pratiquent la peine de mort. Un petit tour du côté d'Israël-Palestine. Un petit tour en Inde. On parlera de délits de solidarité, de la fédération des VTC de PACA, je pense qu'ils ne sont pas contents. On va parler de la guerre, hein, parce que la France aime et fait la guerre, et la France cause beaucoup de morts dans le monde. Et puis on parlera des profiteurs, comme d'habitude, et un peu d'environnement et nucléaire. Ce sera pour la fin de ce Canu Info. On commence avec les barbares.
Oui, alors en 2016, nous avions ouvert avec cette information, le 2 janvier 2016, 47 personnes avaient été exécutées en une seule journée pour terrorisme en Arabie Saoudite. Et nous avions, en 2016, suivi l'évolution de ces assassinats d'État en Arabie Saoudite, en nous demandant est-ce que l'année 2016 allait être aussi mauvaise que l'année 2015, qui était une année record depuis 20 ans, avec 153 personnes exécutées en Arabie Saoudite. Et alors, on a essayé le bilan grâce à l'AFP qui fait un décompte hein, des exécutions en Arabie Saoudite. On a donc appris que 153 personnes avaient été exécutées en 2016. Alors, je suis un peu... J'ai un sentiment mitigé avec ce chiffre. À la fois, je suis soulagée qu'on n'ait pas dépassé le record de 2015 qui était de 153 aussi. Et puis, à la fois, je suis quand même un peu estomaquée par ce chiffre absolument considérable pour l'Arabie Saoudite. Alors, oui, je sais. Il y a des pays qui exécutent beaucoup plus dans le monde. On pourrait parler de la Chine, hein, par exemple. On peut parler des États dits démocratiques qui assassinent comme les États-Unis d'Amérique. Mais l'Arabie Saoudite fait les choses quand même avec force. Hein. Je vous rappelle, 47 personnes le 2 janvier 2016. Nous verrons donc pour cette année 2017 comment les choses évoluent. Et puis, pour continuer avec l'Arabie Saoudite, je vais faire un tout petit point. Les États-Unis d'Amérique avaient décidé devait transférer hier 4 détenus de Guantanamo vers l'Arabie Saoudite. On ne connaît pas la nationalité de ces 4 détenus de Guantanamo puisque c'est pas parce que on vous envoie dans un pays que vous êtes citoyen de ce pays. En avril dernier, déjà c'était 9 personnes du Yémen qui avaient été transférées en Arabie Saoudite. Là, c'est l'administration de Monsieur Obama, hein, l'administration démocrate, qui tente de vider un petit peu Guantanamo.
C'était une de ses promesses. Hein,
de la fermer, hein, carrément. Bon, là, non seulement il ne l'a pas fermée, mais en plus, elle n'est pas vide. Si l'administration de Monsieur Obama se dépêche, c'est que vous avez certainement entendu la promesse de Monsieur Trump, le tout prochain président des États-Unis d'Amérique le 20 janvier prochain, qui a décidé qu'il ne fermerait pas Guantanamo et qu'il allait bien même, enfin, qu'il espérait la garder remplie avec des mauvais gars, hein, c'est le terme qu'il a employé. Donc du côté de Obama, on essaye de vider Guantanamo puisqu'il n'a pas réussi à la faire fermer, alors que Monsieur Trump, lui, espère bien la conserver, peut-être conserver ce qui allait avec, hein, c'est-à-dire les humiliations, mauvais traitements et les tortures.
Alors on va aller faire un petit tour du côté d'Israël, puisqu'un tribunal militaire a déclaré hier coupable d'homicide volontaire Elor Azaria. Donc un soldat israélien qui encourt donc du coup pour la peine 20 ans de prison pour avoir tué un assaillant palestinien. C'était le 24 mars dernier. Alors c'était à Hébron, donc en Cisjordanie. Donc on rappelle que Hébron c'est une ville palestinienne, que l'armée israélienne n'a pas sa place à Hébron, elle est là de manière illégale. Un militaire est agressé par un Palestinien, par plusieurs Palestiniens. Les militaires ripostent et il y a un blessé palestinien. Et Elor Azaria va arriver devant le blessé, qui est allongé par terre, hein, qui bouge pas, mais qui est pas mort. Il va lui mettre le pistolet sur la tête, et il va l'assassiner, l'exécuter en direct. En direct, pourquoi ? Parce que ça va être filmé. Donc c'est un vrai assassinat. Donc il est poursuivi. Alors déjà, c'est presque un miracle hein, en Terre Sainte, pardon, en Israël, qu'il soit poursuivi, hein, parce que le nombre de militaires qui font ce genre de choses est énorme en Israël. Sauf que là, comme c'était filmé, que c'est passé de partout dans le monde, ils étaient coincés. Donc ils sont allés jusqu'au bout. Alors donc il risque 20 ans. La peine sera connue normalement le 15 janvier prochain. Alors ça a fait beaucoup réagir, notamment dans la presse. Alors par exemple on a un éditorialiste d'Aretz, c'est un journal de gauche, qui dit que attention, il y a quand même aujourd'hui une grosse partie de la population qui sont d'accord avec ce militaire et qui rêvent de faire ça sur tous les Palestiniens et pas simplement ceux qui se défendent contre l'occupation, parce que là c'est quelqu'un qui se défendait contre un soldat qui n'était pas à sa place. Hein. Attention. Alors, il y a les autres, la presse de droite et les élus de droite qui disent « Oh non, mais attendez, il faut recontextualiser ce qui s'est passé ce 24 mars ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils disent « Ah oui, mais c'était en pleine vague de violence, d'intifada, c'est normal que le militaire, il se défende ». Ouais, sauf que la vidéo, le mec, il était par terre, il était blessé, il pouvait pas bouger. Il avait plus d'armes, personne risquait rien. Donc c'est un vrai assassinat. Ça, ils oublient un petit peu, les gens de droite, de le dire. Alors, aujourd'hui, c'était les réactions face à cette déclaration du tribunal, hein, qui est incroyable. Et tout de suite, ça a enquillé sur bah, la prochaine étape, c'est de demander l'amnistie. Puisque là-bas aussi, le président, qui sert quasi à rien en Israël, peut amnistier un criminel, un condamné, on va dire. Hein, mais donc un criminel dans ce cas-là. Donc ça y va, des demandes. d'amnistie, alors qu'il n'a pas encore la peine, hein, puisqu'elle sera connue dans une dizaine de jours. Voilà. Alors, il y a des sondages qui sont sortis dans les journaux qui disent que 70% des Israéliens pensent qu'il faut accorder la grâce à ce soldat. Et grosso modo, ça veut dire qu'ils soutiennent l'assassinat qu'a fait ce soldat. Alors, les conséquences de tout ça, bah, c'est compliqué en Israël aujourd'hui. Entre la presse qui hurle dans tous les sens, suivant qu'elle est plutôt de droite, d'extrême droite ou un peu de gauche. Hein, bon, c'est Haaretz, quoi. Et sur les réseaux sociaux, où les insultes sont sorties, bah, comme d'habitude, et des menaces tellement fortes que la police israélienne a arrêté deux personnes aujourd'hui pour incitation à la haine donc sur Internet. Et ils ont décidé de protéger les trois juges militaires qui vont prononcer la peine, parce qu'ils sont menacés. Donc ces trois juges ont droit à des gens qui les protègent aujourd'hui, ainsi que celui qui est responsable de l'accusation, hein, qui est un militaire aussi, un lieutenant-colonel. Donc ils vont être protégés. C'est assez incroyable, hein, en Israël de voir ça. C'est pour dire la haine qui peut exister aujourd'hui dans la population israélienne, finalement, contre la justice, au sens large. Voilà. Alors, au niveau de la droite, le Likoud, naturellement, l'extrême droite, tous les autres partis alliés à Netanyahou ont demandé la grâce, parce qu'ils sont outrés du résultat. Et alors, à gauche, c'était plus compliqué. C'est le parti travailliste, essentiellement, hein, le plus gros parti de gauche, mais même s'ils sont plus grand-chose aujourd'hui, malheureusement. Et même au sein du parti travailliste, il n'y a pas de consensus. Hein, il y en a quelques-uns qui ont dit c'est un bon jugement. Hein, c'est normal de condamner un assassin. Et ils disent que c'est pas un acte de guerre, ça relève du droit commun. Hein, c'est un malfaiteur, le gars. Donc voilà. Mais ils sont quand même pas ultra majoritaires, c'est le moins qu'on puisse dire. Quant à Netanyahou, le premier ministre israélien, il a réagi tout de suite sur son compte Facebook, je cite, « C'est un jour difficile et douloureux pour nous, et particulièrement pour Elor et sa famille, pour beaucoup de soldats et de parents de soldats, et parmi eux, moi-même. » C'est beau, quand même. Et il a continué, « Nous avons une armée qui est à la base de notre existence. Les soldats de cette armée sont nos fils et nos filles. Nous devons rester au-delà de tout différent. Je soutiens la grâce demandée pour Azaria, donc le militaire. » Donc voilà, c'est mal parti. Grosso modo, la paix est mal partie. La justice n'existe quasiment plus en Israël. On va voir quelle sera la peine le 15 janvier et quelles seront les conséquences, s'il sera gracié ou pas. Mais voilà, c'est quand même assez triste parce que c'est un vrai assassinat, quoi qu'il arrive.
Ouais. Alors on va partir en Inde, on va s'intéresser à une décision de la Cour suprême indienne, une décision qui a été rendue ce lundi 2 janvier. La Cour suprême indienne vient de renforcer le statut laïque des élections en affirmant « L'État étant de nature laïque, il ne peut être identifié avec aucune religion ou dénomination religieuse. L'élection constitue un exercice laïque, tandis que le rapport entre l'homme et Dieu est un choix individuel. » Alors c'est une décision qui a été adoptée par 4 voix contre 3, donc c'est pas si large non plus, il faut pas s'emballer. Cette décision interdit aux candidats de faire directement référence à une religion, une origine ethnique, communautaire, linguistique ou à une caste lors d'une campagne électorale. Cela pourrait interdire la présence des chefs religieux lors des meetings, hein, ce qui est souvent le cas. Si jamais un des candidats appelait à voter pour lui, comme c'est déjà arrivé, parce qu'il était hindou, par exemple, eh ben cela serait considéré comme assimilable au délit de corruption et invaliderait l'élection d'un candidat. Donc c'est une question qui a surgi plusieurs fois, hein, ces deux dernières décennies, entre la question entre la religion et la politique. À chaque fois, l'idée, ça a été de tenter de limiter l'influence des hindouistes fondamentalistes dans les campagnes électorales. Alors l'Inde, c'est un pays laïque, mais c'est vrai que la question n'avait jamais été posée comme telle. Alors tout ça est parti d'un recours d'Abraham Singh, qui fait partie du BJP, hein, c'est-à-dire le parti de Narendra Modi, le premier ministre hindouiste. Son élection avait été invalidée à l'Assemblée parlementaire de l'État du Maharashtra en 91 par la Haute Cour de Bombay, car il avait appelé à voter pour lui parce qu'il était hindou, hein, donc en soi c'est un programme d'être hindou. Et donc c'est un frein à ça, hein, c'est ce que la décision de la Cour suprême indienne, et c'est aussi une sanction quelque part contre le Premier ministre Monsieur Modi. Dans les mois qui viennent, 5 États vont élire leur assemblée régionale, en particulier dans l'État le plus peuplé, un État du Nord qui s'appelle l'Uttar Pradesh. C'est un État dans lequel il y a eu des affrontements violents entre hindous et musulmans au moment des élections. Donc est-ce que cette...
des affrontements, les hindous ont attaqué les musulmans.
Oui, c'est dans ce sens-là. Alors l'édition de la Cour suprême, elle est aussi là pour tenter de calmer le jeu. Est-ce que ça va vraiment marcher? Vous savez qu'il y a des chrétiens aussi en Inde, ils sont très peu nombreux.
Ils ne vivent pas dans la joie et la bonne humeur non plus. Hein.
Alors, mais il faut comprendre que l'Inde, c'est aussi très sectoriel, c'est-à-dire que c'est des territoires.
C'est des régions,
oui. Voilà, et donc les chrétiens sont plutôt dans deux régions, même s'ils ne sont pas très nombreux. Ils sont, par exemple, très influents dans l'État du Kerala ou dans le nord-est de l'Inde. Mais eux n'ont pas de parti politique religieux, si vous voulez, pour simplifier le discours. Donc c'est plutôt une bonne chose que cette Cour suprême indienne ait pris cette décision. Maintenant, il semblerait qu'il y ait quand même une idée que ça va un petit peu filouter, qu'il y a une certaine corruption qui se met en place pendant ces élections, et que c'est pas sûr finalement ça marche vraiment, vraiment. Alors je me suis demandé ce que M. Fillon en pensait, puisque il a déclaré être à la fois gaulliste et chrétien, en tout cas il mènerait cette campagne en tant que gaulliste et chrétien.
Et du coup au nom de l'Église, puisque quand il se prétend chrétien, quoi, c'est ouais, quasiment au nom de l'Église. Quoi.
Et ben là, nous aussi on pourrait lui dire que être chrétien ou catholique, c'est pas une catégorie électorale, même si c'est un peu l'idée finalement de ces politiques, d'aller un petit peu marchander auprès des croyants, comme l'extrême gauche va tenter aussi s'attirer une certaine partie des croyants. Monsieur Fillon, il est là-dedans, donc ça m'a fait un peu penser qu'il y avait un rapport finalement, puisque même chez nous ces choses pourraient être un petit peu rediscutées. Et puis on vous avait parlé de la démonétisation lancée par Monsieur Modi il y a quelques temps. Les Indiens avaient jusqu'au 30 décembre pour changer leur billet de 500 et 1000 roupies, ça fait entre 7 et 14 euros donc. Maintenant il n'y a plus que la Banque Centrale qui accepte de les changer et tout ça pour une période de 3 mois, ça se passe pas super bien, il faut le dire. Par exemple, pour être assez simple, il n'y a pas autant d'argent, de nouvel argent qui arrive dans les banques que les Indiens viennent en amener. Alors pourtant, il y a des restrictions, ils n'ont pas le droit d'amener plus de 4000 roupies. Donc vous avez 4 billets de 1000 roupies, imaginez quand même, même si là-bas, ce sont des grosses coupures. Ça reste quand même que 4 billets que tu peux amener à chaque fois que tu vas à la banque pour récupérer les nouveaux billets. Et les banques n'ont pas assez de nouveaux billets. Donc il y a une vraie galère aujourd'hui en Inde, c'est que les paysans et les petits commerçants sont globalement en difficulté, puisque ils n'ont plus d'acheteurs. Puisque les acheteurs n'ont plus de billets aussi pour pouvoir les payer. Et puis tous les secteurs d'activité qui payaient leurs journaliers ou leurs employés en espèces, c'est le cas dans le textile et dans le bâtiment, il y a des difficultés pour payer les salariés parce qu'il n'y a plus l'argent qu'il y avait avant et que les nouvelles coupures n'arrivent pas et que c'est une vraie galère. Donc pour l'instant, ce n'est pas une grande, grande réussite de la part de M. Modi, cette démonétisation. Ça ne se passe pas très, très bien. Ça semble plutôt désorganisé. Je vous rappelle que l'idée de M. Modi, c'est de lutter contre l'évasion fiscale et la corruption, mais il paraît déjà que la fraude, elle s'est réinventée. L'idée de tricher, ça va vite. Et puis que de toute façon, pour ceux et celles qui sont les gros tricheurs, au niveau fiscal, eux et elles sont bien bien protégés, ils ont certainement des conseillers qui les accompagnent, et donc c'est pas eux qu'on va toucher. Voilà, un petit peu pour cette information sur l'Inde.
Alors on va passer un petit moment en France maintenant, après cette partie internationale, avec un petit mot sur le fameux, la réquisition d'hier sur le délit de solidarité. Donc je vous rappelle, c'est une affaire suite à une saisie de la justice par Éric Ciotti, député à droite du parti Les Républicains. Donc cette justice poursuivait Cédric Héroux, qui est un agriculteur habitant de la vallée de la Roya. Donc c'est vers la frontière italienne. Et donc la justice hier a requis 8 mois de prison avec sursis contre lui. Que lui reproche la justice? Et bon, grosso modo, hein, il a aidé des migrants. C'est ce qu'on appelle un délit de solidarité. Hein. Donc il a aidé les migrants. Et pour ça, bah, il est poursuivi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Cédric est allé jusqu'au bout, hein, Cédric Héroux, puisque devant le tribunal, il a assumé ce qu'il avait fait. Il a dit que c'était bien des actes politiques. C'est un choix humanitaire et politique. Et je cite, il a dit « Je le fais parce qu'il y a des gens qui ont un problème. Je le fais parce qu'il faut le faire. Il y a des gens qui sont morts sur l'autoroute. Il y a des familles qui souffrent. Il y a un État qui a mis des frontières en place et qui n'en gère absolument pas les conséquences. » Donc effectivement, face à tout ça, lui, il a secouru des réfugiés. Il leur a trouvé des endroits où dormir, notamment un centre abandonné de la SNCF de vacances qu'il a ouvert. Donc c'est un squat, hein. Mais il s'est fait virer au bout de 3 jours, et du coup il a aidé ces réfugiés à passer en France sans risquer leur vie, en fait, hein. C'était pour leur éviter de risquer leur vie, parce que s'ils le faisaient pas, ils allaient le faire quand même, mais avec les risques qu'il a expliqué durant ce procès. Alors, quand là, il y a des passages presque drôles, hein, dans le procès, parce que, et du coup, c'est assez sympa ce qui s'est passé, parce que quand la présidente lui a demandé ce qui se passait aujourd'hui, il a dit « Oh ben aujourd'hui, nous avons une 30aine de mineurs hébergés à Sorge, chez des particuliers, et j'ai moi-même 3 mineurs hébergés chez moi, et des majeurs aussi. » Donc il continue. Il va jusqu'au bout, il se dit, je suis poursuivi pour ça, mais je continue. Je pense que c'est plus l'important, c'est de continuer de lutter et d'aider les gens. Alors la présidente a dit, elle s'est étonnée, hein, elle dit, mais comment ça se fait là? Vous avez 2 procédures sur le dos et vous n'avez pas décidé d'arrêter. Il a répondu, même si vous me condamnez, le problème continuera. Donc il a laissé entendre que lui, il continuera. Et alors, donc c'est plutôt un peu la classe quand même. Ce procès, c'est symbolique. D'ailleurs, c'est pas mal instrumentalisé par lui et par les militants pour parler de la cause des réfugiés. C'est une bonne instrumentalisation, hein, dirons-nous. Mais alors, ça a énervé le procureur. Donc, il s'appelle Jean-Michel Prêtre, qui trouve ça inadmissible qu'un tribunal serve de tribune politique. Et c'est pour ça, je pense qu'il a requis ses 8 mois d'emprisonnement avec sursis, avec mise à l'épreuve, confiscation de son véhicule, permis de conduire limité. Parce qu'il faut qu'il puisse continuer de travailler, mais pas qu'il aide les réfugiés à passer la frontière. Voilà, des choses comme ça. Et alors, je cite le procureur, parce qu'il a dit un truc assez énorme. Il a dit, nous sommes dans la situation d'un procès qui a été voulu, qui procède d'une stratégie générale de communication, de portage militant d'une cause, et qui fait que la justice est saisie aujourd'hui de faits reconnus. Bon, si les faits sont reconnus, oui. Il a continué, il a dit, ce n'est pas à la justice de décider de changer la loi, ce n'est pas à la justice de donner une leçon de diplomatie à tel ou tel pays, a-t-il poursuivi. Bref, il est légaliste, c'est normal, c'est son métier. Ça veut dire, si on se rappelle de l'histoire, en 1942, il aurait appliqué la loi, lui, avec son discours. Donc il aurait permis la déportation des Juifs. Et justement, ce que rappelle tout ce qui s'est passé après 1945, eh ben, c'est que quand une loi est mauvaise, l'histoire juge ceux qui l'appliquent comme étant des criminels, des assassins, hein, et ceux qui l'appliquent pas, des résistants. Et pas que des militants, des résistants. Et là, du coup, cet agriculteur, il est résistant face à une loi qui fait mourir des gens. Il y a des réfugiés qui meurent, qui sont blessés tout le temps. Donc, c'est une vraie crise de conscience de la part de ces militants et qui refusent la légalité, parce que la légalité est dangereuse. Donc c'est plutôt pas mal, hein, finalement, ce qui se passe, même si, finalement, au final, même s'il est condamné, ce sera de la prison avec sursis, ce qui sera horrible, mais symboliquement, il aura quand même fait parler de choses importantes, et il aura eu un très bon discours, cet agriculteur, qu'on sent bien qu'il est quand même bien militant. Du coup, il a un discours construit, intelligent et intelligible.
Ouais, et puis il fait face aux médias. Je veux dire que voilà, il se laisse filmer, il répond aux questions. Mmh. Je le trouve serein, calme et déterminé. Et ça, c'est assez fort, ouais, de sa part.
Bravo.
Alors oui, on va parler VTC, ça va l'air de te surprendre.
Je m'en fous des voitures.
Mais... J'aime bien, oui, mais tu vas voir, ma conclusion. Je ne sais pas si elle va te plaire, en fait. Oui, alors vous savez, on a beaucoup entendu parler de ces protestataires, protestations des VTC à Paris qui se battent contre Uber. Ces chauffeurs estiment ne pas être assez payés, rétribués par Uber. Je vous rappelle qu'Uber sert de plateforme. Et ben, au milieu de cette cacophonie, j'allais dire, de protestations, j'ai trouvé une petite critique. C'est en fait la Fédération des exploitants VTC de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui, hier, dans un communiqué, a expliqué ne pas rejoindre le mouvement de contestation des VTC parisiens contre les plateformes de mise en relation, notamment Uber. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas d'accord avec les protestataires parisiens. Alors, ce n'est pas exactement une problématique régionale. Ça pourrait, mais ce n'est pas exactement ça. La Fédération de PACA a donc décidé de ne pas suivre la mobilisation du 16 janvier prochain, qui est menée entre autres par Saïa Baroun, le président du syndicat UNSA-VTC. Rafik Chab, le président de la Fédération de PACA, estime que ce n'est qu'une plateforme et que globalement il n'y a aucune raison de s'en prendre à Uber, et surtout que les revendications sont incompatibles avec les statuts, le statut d'indépendant que ces chauffeurs VTC ont, et que donc bah, il n'y a pas de raison de manifester sa colère dans la rue, et que s'ils n'ont pas content, bah, ils n'ont qu'à quitter Uber et de travailler avec d'autres plateformes. Alors c'est vrai qu'il y en a d'autres, hein, des plateformes, simplement il faut bien reconnaître que Uber a quand même un petit peu monopole hein, ouais, dans les grandes villes, mais il y en a d'autres, hein. On pourrait citer Allocab, le Cab Marcel, ou encore Fosséa qui a été créé à Marseille, par qui? Par Rafik Chabid, le président de la Fédération de PACA. Bah oui, tout est lié hein, quand même. Donc globalement c'est un entrepreneur qui vous dit que si vous avez de la poigne, si vous en voulez, vous pourrez vous en sortir.
Ah ouais, du coup, c'est un patron, lui. Bah, en fait, il a le même rôle qu'Uber, en fait.
Non, simplement, lui, il reconnaît qu'il est libéral et que le statut d'indépendant n'est pas un statut de salarié et qu'ils ont tort de se plaindre. Globalement, je vais vite pour dire ça. Mais il va plus loin, Rafik Chabi. Il estime que le mouvement de contestation contre Uber n'est pas mené par des chauffeurs VTC indépendants, mais par des sociétés qui organisent, en fait, cette contestation, que de la même manière que, en fait, d'autres accusent en fait cette contestation d'être menée par la CGT Taxi
en sous-main.
Non mais vous voyez, il y a aussi un petit peu du complot dans tout ça, c'est hyper intéressant. Moi ça me fait bien marrer, tout ça pour de la bagnole, comme tu aimes, Laurent. Et donc ces sociétés, en fait, Rafik Chabi les accuse d'envoyer leurs salariés sur la plateforme Uber, et donc en fait de détourner le propre salariat de leurs employés pour en faire les faire travailler d'une façon libérale grâce à Uber, et puis de faire des profits, mais finalement pas rétribuer leurs salariés. La fédération a donc décidé de déposer une plainte contre X pour concurrence déloyale. Ah bon, on n'a pas fini hein, avec les VTC et les taxis, il y en a pour un petit moment. Alors, c'est vrai que, bon, quelque part, nous, ça nous fait un peu marrer, hein, cette guéguerre des VTC. On n'en prend pas, on prend pas non plus le taxi ici, dans ce Canu Info. Donc bon, soit on fait du vélo, soit on prend les transports en commun, soit on marche, on n'a même pas de trottinette, voyez-vous. Mais on va se demander un petit peu c'est quoi la place de la voiture individuelle, puisque toi, Laurent, tu espères bien que il y en aura plus bientôt dans les centres-villes, que nous n'aurons plus de voitures individuelles, ou plus de voitures tout court d'ailleurs, hein, que il y aura plus de possession personnelle, que ça va être de l'autopartage peut-être, de la location, du prêt entre particuliers. Et puis il va y avoir donc après cette guerre entre les taxis et les plateformes. Et donc en fait ça c'est les futurs clients des constructeurs. D'ailleurs certains constructeurs se sont lancés un petit peu sur cette idée de la voiture collective et non plus individuelle, puisque par exemple Daimler qui est Mercedes-Benz a racheté la plateforme MyTaxi, qui est une plateforme allemande. Volkswagen a mis 300 millions de dollars dans la plateforme israélienne Gett. Toyota a investi dans Uber et General Motors dans Lyft, qui est la société concurrente d'Uber aux États-Unis d'Amérique. Alors, à côté de ça, Uber vient de suspendre les tests de voitures sans chauffeur en Californie, qui avaient été lancés sans autorisation. Mais Apple est aussi sur le marché. Donc, si vous voulez, demain, ça va être quoi la voiture, hein, c'est-à-dire que vous allez peut-être toujours monter dans une voiture malgré les souhaits de Laurent. Reste à savoir à qui elle appartiendra. Et ça, c'est bien la question économique des prochaines décennies.
Alors on va parler de la France et de la guerre un petit peu maintenant. Alors vous savez sûrement tous que comme tous les membres des Nations Unies et de l'Union Européenne, la France est tenue normalement de respecter les embargos votés sur les ventes d'armes. Et pourtant on a appris qu'elle aurait violé près de la moitié de ces embargos ces dernières années, on va dire au moins sous le mandat de François Hollande. Alors tout ça, ça nous vient d'une association qui est bien connue, qui s'appelle l'Observatoire des armements, qui fait un gros travail sur l'armement dans le monde et notamment en France. Alors, le gouvernement refuse globalement en général de répondre aux questions, notamment des parlementaires, sur ce sujet de la violation des embargos sur les ventes d'armes. Il y a une loi qui existe, mais qui n'est pas votée, qui est passée au Sénat il y a 10 ans et dont on attend le retour. 10 ans pour qu'une loi revienne. En gros, la droite, la gauche, l'extrême droite, tout le monde bloque pour pas que cette loi soit votée définitivement en France. Une loi qui interdirait de ne pas respecter les embargos sur les ventes d'armes. C'est pour dire l'état un petit peu aujourd'hui de la France et des politiques et de l'hypocrisie générale sur les ventes d'armes. Alors, on le sait, hein, depuis très longtemps, les exportations d'armes de la France, c'est le 3e ou 4e exportateur d'armes, ça dépend des années, dans le monde, c'est toujours entouré d'une énorme opacité. Un peu comme le nucléaire, c'est un peu pareil. Hein. La plupart des informations qu'on peut obtenir, ça provient des rapports annuels que fait le Parlement. Et c'est une source qui est tout sauf complète, puisque ça parle d'autorisation de vente, de licence de vente, tout ça délivré par l'État. Mais il y a très peu de détails. On ne sait pas si c'est pas parce qu'il y a une autorisation que la vente se fait. Donc on ne sait pas si les ventes sont vraiment faites. On ne sait pas totalement à qui. On ne sait pas quels sont les vrais destinataires. Finalement, on a très peu d'infos. Et à partir de ce très peu d'infos, c'est difficile, même pour l'Observatoire des armements, de savoir si la France n'a pas respecté un embargo, vu que tout est entouré d'un énorme flou. Alors aujourd'hui, hein, il y a au moins une dizaine de pays qui sont interdits de livraison d'armement. Pour exemple, hein, la Libye, la Côte d'Ivoire, l'Iran ou la République centrafricaine sont sous embargo des Nations Unies. Donc la France est censée les respecter. Le Soudan du Sud, la Syrie et la Chine sont sous embargo, eux, de l'Union européenne. La France est censée aussi respecter l'embargo de l'Union européenne. Et pourtant, on va donner quelques exemples. La France a vendu beaucoup d'armes à la Chine pour 500 millions, on va dire, entre 2010 et 2014. Et pourtant, la Chine est sous embargo de l'Europe. Donc bref, la France ne respecte pas du tout les embargos et continue de vendre des armes à des assassins. Des fois, il y a quand même des questions. On se rappelle, en septembre 2015, la députée écologiste Danielle Auroi avait demandé à Monsieur Le Drian, ministre de la guerre, officiellement ça s'appelle ministre de la défense, hein, les détails de plusieurs transactions sur la Libye. Et il avait répondu que non, il n'y avait pas de problème de violation d'embargo, et puis qu'il ne pouvait pas lui répondre parce qu'il y avait le secret défense. Alors, le secret défense, dans tous les pays, c'est l'arrivée de systèmes antidémocratiques véhiculés par les parlementaires et par le système soi-disant démocratique. On cache tout derrière le secret défense. Et du coup, quand on dit secret défense, on ne sait rien. Et aujourd'hui, en France, mais ça marche dans la majorité des soi-disant démocraties, il y a plein de choses qui sont faites par derrière, au nom du secret défense, et à aucun moment, les citoyens qui vont élire les politiques, les anciens, les sortants, qui se représentent, etc., ne savent réellement ce qu'ils ont fait. Et comment on peut choisir ? C'est pas une vraie démocratie, du coup, parce qu'on peut pas choisir réellement en disant, tiens, je vais revoter pour Valls parce qu'il a fait ça. Non, parce qu'il y a plein de trucs que Valls a fait, au nom du secret défense, que vous savez pas. Donc il y a une vraie hypocrisie. Le secret défense, c'est l'anti-transparence, c'est le régime totalitaire à la place de la démocratie. On vous manipule, ça sert à ça, en fait, le secret défense, à vous manipuler. Vous qui votez. Alors, des exemples, il y a quand même des choses qui sortent. Les sociétés Acmat Défense et le groupe Marc, société française, ont été épinglées par un groupe d'experts des Nations Unies sur la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont violé moult fois l'embargo sur la Côte d'Ivoire entre 2011 et 2012. La France n'a rien fait, mais eux, ils ont été condamnés, surpris. Alors, et c'est une entreprise qui a pignon sur rue, qui participe tous les 2 ans au salon Eurosartorie, là. Le salon de la guerre qui a lieu en banlieue parisienne. Voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Ils sont soutenus par tout le monde et pourtant, ils ne respectent pas les embargos. De même, Renault a vendu des blindés légers à l'Égypte entre 2013 et 2014, le pire moment de la répression en Égypte, qui était sous embargo aussi, mais ça, bon, embargo européen à l'époque. Alors, c'est vrai qu'il est difficile pour le commun des mortels de comprendre ce qui se passe et ce qui est interdit ou autorisé à travers ces embargos. Parce que ces embargos, chaque embargo a des modalités d'application différentes. Du coup, c'est la complexité de ces embargos empêche aussi l'accès aux citoyens aux informations. Et ça, c'est la deuxième couche, en fait. Non seulement on n'a pas beaucoup d'informations, mais les embargos eux-mêmes sont très complexes. Il n'y a pas une règle où, quand c'est un embargo, toutes les armes sont interdites. C'est chaque fois, il y a des textes qui font 25 pages et qui expliquent ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. Du coup, nous, on ne comprend rien et on laisse faire en disant, bah tant pis, ou alors on fait confiance à ceux qui nous mentent et qui disent, non, on triche pas. On respecte les embargos. Or, il y a plein de preuves comme quoi ils ne respectent pas les embargos. Un petit exemple sur la guerre, sur les guerres actuelles. La France a vendu des chars Leclerc aux Émirats Arabes Unis, des Mirage 2000 au Qatar, des canons d'artillerie à l'Arabie Saoudite. Et ces trois pays participent à la guerre du Yémen qui a aussi un embargo. Sauf que, justement, l'embargo, il interdit à la résistance aux rebelles houthis d'acheter des armes, mais pas à l'autre camp. Ah, c'est un bel embargo. Donc, grosso modo, les embargos, c'est quand même des outils qui, des fois, condamnent et empêchent, essayent de limiter les ventes d'armes, mais c'est aussi beaucoup des outils d'ajustement pour les intérêts économiques des Occidentaux. Il y a un énorme enjeu là-dessus, et il y a quand même, à mon avis, d'énormes lobbies qui font pression au niveau de l'ONU ou de l'Europe pour avoir tel embargo ou pas tel embargo, pour des raisons économiques et non pas pour des raisons de protection des populations, des choses comme ça. Donc la situation est quand même très très compliquée. Bref, aujourd'hui, la France, par ses ventes d'armes, ne respecte pas un certain nombre d'embargos et donc participe à la mort de dizaines, de centaines de milliers de personnes chaque année. Et alors, la deuxième étape, tu as parlé tout à l'heure des barbares. En fait, on dit toujours, dans notre rubrique barbare, c'est ceux qui appliquent la peine de mort. Mais en fait, la France est un pays barbare, parce qu'elle n'applique pas la peine de mort officiellement à travers la justice, mais elle l'applique à travers l'armée. Parce qu'on a appris hier, à travers Vincent Nouzil, qui a sorti un livre sur François Hollande, qu'en fait, depuis 2013, François Hollande a autorisé 40 au moins, c'est le chiffre qu'ils ont, ils savent pas s'il y en a plus, mais ils sont sûrs de ce chiffre-là, 40 individus ont été assassinés à l'étranger sur l'ordre de François Hollande. Donc, un barbare aussi, peine de mort. Alors c'est pire que la peine de mort judiciaire, parce que là, il n'y a même pas de procès. Donc, en fait, c'est simplement qu'il fait comme Obama. On avait pas mal critiqué Obama à l'époque quand on apprenait comment ça se passait, notamment à travers les drones, où on lui demandait tous les jours, on a celui-là en ligne de mire, c'est un méchant, vous validez la mort? Il validait, ou pas. Et bien, en fait, Hollande, il fait pareil. Alors, c'est à moins de grande échelle, bien évidemment, c'est à l'échelle de la France, mais il fait pareil. Et on a appris ça donc hier dans ce livre. Alors, ça avait déjà un peu percé comme ça dans les médias il y a quelques temps, mais voilà, c'est un truc assez énorme. Alors le processus est assez simple. Le président de la République donne son aval aux états-majors militaires et à la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, c'est les services secrets français, pour éliminer à l'étranger, et en général de manière clandestine, des ennemis présumés de la France. C'est des soi-disant terroristes ou des prétendus terroristes, parce que finalement, des fois, il n'y a pas tant de preuves que ça. Alors des fois, c'est flagrant, des fois pas. Alors ces actions en France, elles sont appelées opération HOMO, pour opération homicide. Donc c'est bien évidemment totalement illégal, puisqu'en général c'est des agents secrets ou des militaires qui vont sur place et qui assassinent la personne repérée par les services secrets. Donc c'est des opérations spéciales, comme le Rainbow Warrior à l'époque, mais là c'est à beaucoup plus grande échelle, puisque c'est au moins 40 personnes depuis 2013. Alors, ce qui pose problème, c'est que c'est illégal. Et pourquoi c'est illégal ? Parce que ils interviennent dans ce qu'on appelle des zones grises. C'est-à-dire, c'est des situations où il y a un souci, un conflit, mais c'est pas des zones de guerre. Parce qu'en France, et comme dans beaucoup de pays, si la France déclare la guerre à un pays, la France a le droit, enfin, en tout cas les militaires, ont le droit d'aller tuer l'ennemi, puisqu'il y a une déclaration de guerre. Or, ce qu'est en train de faire la France, c'est que la France a déclaré la guerre à personne. La France n'a pas déclaré la guerre à la Syrie, n'a pas déclaré la guerre au Mali, n'a pas déclaré la guerre à personne, à aucun pays. Et la France assassine quand même des ressortissants maliens, des ressortissants irakiens, ce que la France estime être des ennemis. Voilà. Donc c'est quand même pas très glorieux. Alors il paraît que la France est le pays des droits de l'homme. Alors entre les condamnations des gens qui aident les réfugiés et les assassinats commandés par M. Hollande, 40 quand même. Alors c'est pas lui qui décide des personnes. C'est la DGSE qui lui ramène des noms, comme à Obama. On lui dit, regarde, lui, c'est un méchant. Hollande, il peut que croire, puisqu'il n'a pas les moyens d'aller enquêter lui-même. Donc après, il obéit, il dit, oui, allez, on assassine, et on assassine. Bravo, pays des droits de l'homme, c'est un peu la classe, quand même.
Alors, nous allons parler des profiteurs, et nous allons parler textile jeudi soir. D'après Reuters, c'est-à-dire l'agence de presse, Amazon est en course pour le rachat d'American Apparel. Vous savez, cette marque de vêtements qui se vend partout dans le monde, hein, ou, enfin j'exagère un petit peu, mais en tout cas ça se vend bien en Europe aussi, comme aux États-Unis d'Amérique. Alors il faut savoir qu'American Apparel a été placé en faillite pour la deuxième fois en novembre 2016. Il faut dire que la multinationale a accumulé une dette de 177 millions de dollars. Alors c'est vrai qu'American Apparel, je dis que c'est une multinationale, mais c'est très connu aux États-Unis d'Amérique pour être un fabricant américain.
Oui, voilà, ils se vendent de ça, c'est
de
fabriqué
textile.
Aux États-Unis.
En Amérique du Nord. Des fois, c'est
ouais.
Plutôt dire en Amérique du Nord qu'aux États-Unis, mais effectivement c'est un gros producteur de textiles et de vêtements aux États-Unis d'Amérique. C'est 4500 employés et American Apparel, la direction du moins, a déjà informé ses salariés qu'ils pourraient perdre leur emploi là au mois de janvier. Il y a déjà eu des fermetures de magasins et donc Amazon serait sur les rangs puisque Jeff Bezos a l'air de s'intéresser à l'industrie du textile et ça pourrait être une nouvelle ouverture pour Amazon, la vente de textiles. C'est qu'Amazon va ouvrir une librairie hein, aux États-Unis d'Amérique, une boutique, c'est-à-dire d'être le leader sur Internet ne suffit pas. Il faut aussi écraser la concurrence dans la rue. Alors, il y aurait une vingtaine de sociétés hein, qui seraient en négociation pour acheter American Apparel. Amazon n'a absolument pas commenté la chose. Ce qu'on sait pour l'instant, de sûr, c'est qu'il y a une entreprise canadienne qui s'appelle Gildan Activewear qui a fait une proposition à 66 millions de dollars. Ça fait un peu plus de 63 millions d'euros. Mais Gildan Activewear ne veut que les droits de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que les Canadiens ont fait savoir qu'ils ne voulaient pas des magasins.
Voilà. Ils vont licencier tout le monde, quoi. Ils vont garder la marque, quoi.
Bah, ils veulent que la marque, c'est ouais. Tout. Donc voilà, c'est la première partie textile. Et alors la deuxième partie textile, vous avez entendu parler de la crise au sein de Vivart. Vivart, je vous rappelle, c'est une entreprise que ne vous connaissez pas...
sous ce nom-là, ouais.
Sous ce nom-là. Mais vous connaissez les chaussures, André, Minelli, San Marina, Patogas, là, Halo Chaussures et Mercal et tout ça. L'habillement, c'est la Halle, Naf-Naf, Chevignon, Koukaï, Défimode, Carole. Alors, il faut savoir qu'à la belle époque, le groupe disposait de plus de 4500 points de vente et employait 17 000 salariés, mais ça, c'était à la belle époque. Alors, déjà, il faut se rendre compte que Vivart, c'est un nom qui date de 2001, mais l'histoire du groupe aujourd'hui,
en fait,
c'est le 19e siècle. La première boutique a ouvert à Nancy en 1896. C'était effectivement une boutique de chaussures. Et puis, le groupe va faire comme tous les autres, hein. C'est-à-dire à la fois créer des marques et puis surtout racheter les concurrents pour se développer.
Voilà, la folie des grandeurs un petit peu.
Alors un petit peu, bon, il faut dire que c'est vrai qu'aujourd'hui le groupe va pas très bien parce qu'il y a d'autres multinationales comme Zara ou H&M qui battent très rapidement les marques de Vivart. Et puis il y a des enseignes qui font du bas prix qui sont bien plus rentables que la Halle par exemple. Et puis comme le soulignent les salariés et les syndicalistes, il n'y a pas eu de virage numérique. Ils ont tout loupé là-dessus. Donc, il n'y a pas eu un développement des ventes en ligne. Et donc, les marques n'existent pas vraiment sur Internet. Ce sont vraiment des marques de boutique. Et donc là, il y a une perte aussi de reconnaissance du consommateur. Mais c'est vrai que ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a déjà eu un plan social en avril 2015, qui a porté sur 1600 postes, donc 1344 à la louche vêtements, excusez-moi. Il y avait eu 200 fermetures de magasins sur la Halle. Là, il y a eu des nouvelles annonces hein, en septembre 2016 à la Halle aux chaussures. Il y a déjà des marques qui ont été mises en vente au cours de l'année 2016. Je vous ai cité tout à l'heure Défimode, et ben c'est le cas. Mais on pourrait citer la compagnie vosgienne de chaussures, Koukaï, Chevignon et Patogaz en juin, Merkel en septembre. Donc le groupe est en train quand même de se dilater, il faut bien le dire, au niveau de ces marques. Alors, Par contre, la direction de Vivart a démenti la cession de André, la marque historique de Vivart, qui représente 750 salariés, mais qui perd de l'argent, hein, selon les syndicats. 10 millions par an, quand même, c'est pas une petite somme. Et puis, bon, il y a la difficulté, je vous disais tout à l'heure, de la concurrence. Mais en vrai, le vrai fond du problème de Vivart, c'est sa dette. Et alors, c'est une catastrophe ce qui s'est passé avec ce groupe. C'est-à-dire que d'abord, il y a le fonds Ticus qui a pris le contrôle du groupe en 2000, puis qui l'a cédé à Pye Partners en 2004, avant Pye Partners de se désengager deux ans plus tard pour fourguer tout ça à Charterhouse, qui est un fonds britannique. Donc si vous voulez, c'est pas non plus des experts de la chaussure et du vêtement qui ont managé et dirigé le groupe, ce sont des financiers. Et tout ça s'est fait avec des acquisitions qui ont été financées par ce qu'on appelle un leverage buyout, un LBO en français. C'est un montage financier qui consiste à acheter une entreprise avec pratiquement pas de fonds propres.
En s'endettant du coup.
Mais en s'endettant, c'est exactement ça. Et ensuite, c'est l'entreprise qui se retrouve à devoir supporter la charge de la dette. Et là, nous avons une dette à 1,5 milliard d'euros quand même, hein, pour l'endettement total. Il y a une nouvelle procédure de désendettement et de restructuration de la dette qui avait été lancée en juillet, mais ça n'a pas l'air de bien marcher. Et puis, la dernière chose qui est plus humaine, c'est qu'en 5 ans, il y a quand même eu 5 PDG. Hein, il y a eu d'abord le départ de Georges Plassat, hein, connu en 2012. Antoine Metzger, lui, il est resté 4 mois. Marc Lelandais, il a été débarqué en octobre 2014. Il avait pris la suite d'Antoine Metzger. Il a été débarqué en 2014 au profit de Richard Chimonin, qui n'est pas resté et qui a été suivi par l'ancien dirigeant de Monoprix, Stéphane Macaire, en février 2016. Lui-même a été évincé au bout de 8 mois. Hein, donc tout ça va très très vite. Et là, maintenant, les salariés sont heureux. Moi, je te le dis, Laurent, puisqu'ils ont Patrick Puy. C'est un spécialiste des entreprises en difficulté. Il a géré la restructuration de Moulinex.
Ouais, il fait le ménage, lui.
4000 suppressions d'emplois, ouais, je vous rappelle. Dark International, 400 postes supprimés. Oui, là, il est passé aussi par TDF, quand on voit ce que ça donne aujourd'hui. Eh ben, non, ils sont pas très heureux, les salariés de Vivarte. Ils ont raison de se faire du souci. Alors moi, j'ai retrouvé cette citation. C'était à Capital, le magazine. Il expliquait qu'il a une mission commando de moins d'un an pour restructurer le groupe et qu'il faut oublier les états d'âme.
Ouais, donc il va charcler, parce que lui il perd pas son boulot, même s'il est embauché que pour un an, il en retrouvera d'autres ailleurs. Et par contre, ceux qu'il va virer, ça va être plus compliqué.
Bon courage à vous si vous bossez pour Vivart. Ouais. Je vous appelle toujours Vivart, excusez-moi Vivart.
Alors on va poursuivre avec un petit mot sur Apple, vous savez la marque avec la pomme qui a un peu mangé là, qui a annoncé, alors on l'a appris le 23, enfin ça s'est fait le 23 décembre, mais on l'a appris finalement ces jours-ci, que Apple avait supprimé les applications du New York Times, le journal américain, de son appli, de son store en Chine. Alors on se dit, oh bah c'est pas très classe hein, quand même de faire ça. Pourquoi ils ont fait ça? Ben parce que la Chine veut pas du New York Times. Hein, on trouve déjà plus le journal en Chine. Le site est pas accessible de la Chine non plus. Le New York Times n'est pas assez sympathique avec la dictature chinoise. Donc c'est pas bien d'avoir l'appli. Et Apple ben n'a pas résisté. A dit, bon ok, hein, vous aimez pas la liberté d'expression, et ben on va enlever la liberté d'expression. Donc voilà, l'Apple c'est toujours une marque hein, qui est classe, on la met en avant, ils font des beaux trucs. C'est comme les autres, quand il faut s'allier avec une dictature, avec un régime autoritaire, hein, plusieurs milliers de personnes assassinées par an par l'État à travers la peine de mort, et ben Apple assume totalement, c'est quand même la honte totale. Le pire c'est que c'est un journal américain. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas solidaires avec les journaux du pays dont ils sont issus. Tout ça pour passer un accord avec la dictature chinoise. Moi, je dis, si vous avez un Apple, j'espère que vous allez le jeter à la poubelle.
Alors ça, moi, j'y compte pas trop.
Oui, c'est parce que c'est un peu cher, c'est ça?
Ouais, et puis parce que les gens, ils sont un petit peu en adoration, parfois.
Ouais, et ben voilà, vous adorez donc une marque qui collabore avec la dictature chinoise. Bon, ceci dit, je suis pas sûr que les autres marques...
Ouais, c'est ça le problème, c'est que va falloir tous qu'on jette notre smartphone, voilà, je pense.
J'ai pas dit que c'était mieux ailleurs.
Ou nos téléphones portables, du moins.
Ouais. Alors, on va parler un peu nucléaire et environnement. Donc, vous avez remarqué, on est le 5 janvier 2017. Si vous avez un peu de mémoire, François Hollande, le président de la République française, avait annoncé dans son programme électoral, ses 60 promesses, que avant fin 2016, la centrale nucléaire de Fessenheim serait fermée. Et on rappelle que c'est avec ça qu'il a pu attirer une partie des votes écolos au deuxième tour de la présidentielle. C'était, on le sentait bien, un pur mensonge. Eh bien, on en a la preuve aujourd'hui, puisque nous sommes le 5 janvier 2017 et que la centrale n'est pas fermée. Et que les promesses de Hollande, ben, vous en faites ce que vous en voulez, mais il nous a quand même bien arnaqué hein, sur l'économie, mon ennemi c'est la finance, je ferme Fessenheim. Voilà, en gros, toutes ces idées de gauche qui étaient en lien avec l'économie, il s'est assis dessus. Alors, si, on en est où du coup? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, parce que c'est pas le seul à mentir. Il faut quand même en avoir conscience. La ministre, soi-disant, de l'Environnement, a elle aussi pas mal menti, Ségolène Royal. Puisqu'elle s'était engagée en mars de cette année et en juin de cette année, deux fois, à faire signer le décret d'arrêt de fonctionnement de Fessenheim avant la fin de l'année. Même si la fermeture officielle est repoussée à 2018, elle voulait signer le décret avant le changement de gouvernement. Ben c'est pareil, c'est un énorme mensonge, enfin deux mensonges, qu'elle a dit deux fois dans l'année, parce qu'elle n'a pas fait sortir le décret là-dessus. Alors on sait aujourd'hui que Fessenheim, si les socialistes restaient au pouvoir, et qu'ils respectent leur... Bon, là on sait qu'ils mentent. On pourrait imaginer que sur ce qui était écrit, ils vont respecter le dernier accord. L'idée c'est que ça ferme au moment de la mise en route de l'EPR de Flamanville. Donc en 2018 si tout va bien, en 2250 si tout va mal hein. Mais même ça on n'en est pas sûr. D'abord il faudrait que le PS gagne les élections, et parce que les autres ils sont tous pro-nucléaire, donc à mon avis voilà, ceux qui habitent autour, vous pouvez continuer à prendre vos pastilles d'iode dans votre petit tiroir au cas où ça pète, parce que c'est pas prêt de fermer. Voilà, c'est quand même la mauvaise nouvelle. On savait que les socialistes étaient des menteurs, et notamment sur les sujets environnementaux. On en a une preuve de plus. Alors, on va aller vers un pays qui montre l'exemple. Autrement plus que la France. En tout cas, sur ce domaine-là, parce que pas dans tous, quand même. On va aller au Costa Rica. C'est la deuxième fois, hein, on en parle régulièrement, parce que c'est un peu, sur la production d'électricité, un peu la référence, un peu la classe internationale, le Costa Rica. Alors, 2016, ils ont fait leur bilan de production d'électricité. Eh bien, c'est pas mal. 250 jours complets d'électricité produit, fabriqué à l'aide d'énergie renouvelable. Sur 365 jours, c'est pas mal. Au final, on a les chiffres. 98,1% de l'électricité produite sur l'année 2016 au Costa Rica vient des renouvelables. C'est 74,35% avec l'eau, donc avec les barrages. 12,74% avec la géothermie. 10,3% avec du vent. 0,72% avec de la biomasse et un tout petit peu avec du solaire, 0,01. Alors ils n'ont pas besoin de beaucoup de solaire, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas trop développé jusqu'à maintenant, mais c'est en train de se développer, parce qu'ils ont tellement de précipitations et de cours d'eau que ça leur suffit pour faire autant que le nucléaire chez nous, c'est-à-dire 74,35%. Alors vous me direz, oui, le Costa Rica, c'est pas la France, c'est un petit pays. Alors ça a... Effectivement, c'est un plus petit pays, 13 fois moins grand que la France, enfin 13 fois moins d'habitants que la France, et surtout 51 fois moins de consommation d'électricité, hein, parce que c'est un pays qui est moins développé, qui surconsomme moins aussi. Hein. Mais ça explique pas tout, parce que ça, bah, y a plein d'autres pays qui sont un peu comme le Costa Rica et qui sont quand même à 0% de renouvelables. Non, c'est que le Costa Rica a décidé un jour, du jour au lendemain, d'essayer de basculer à 100% de renouvelables. Ils se donnaient un certain nombre d'années. Alors, on n'en est pas loin, hein, puisqu'on est à 98,1 cette année. L'année dernière, c'était légèrement plus, et ça dépend essentiellement du coût de l'eau. On était, ils étaient à 98,9 l'année dernière. Mais avec les projets d'installation de solaire thermique, enfin de solaire photovoltaïque, ils comptent effectivement arriver très rapidement à 100%. Donc aujourd'hui, on sait 100% c'est possible, même sur un pays beaucoup moins développé, parce que certes, ils sont moins nombreux, ils consomment moins, mais ils sont tellement moins développés que c'est pas facile non plus de mettre ça en route. Et ben, ça démontre juste qu'il suffit de volonté politique. Bien, une volonté qui n'existe pas chez nous, bien évidemment, ça on le sait tous. D'ailleurs, on a des exemples que c'est possible chez nous aussi. Il y a un rapport de Engie, vous savez, la multinationale de l'énergie, l'ancien GDF Suez, là, enfin le mélange des deux. Eux, ils ont sorti une étude qui confirme l'étude de Negawatt. Le réseau Negawatt, hein, c'est un réseau qui propose la sortie du nucléaire, un réseau très sérieux. Hein. Et donc Negawatt avait dit en 2011, ils avaient pris sur toute la France, mais en plus particulièrement sur la région PACA, ils avaient dit voilà, la région PACA, c'est ultra facile de passer du jour au lendemain au 100% renouvelable. Et bien là, Engie dit la même chose. Alors là, on n'est pas du coup dans des militants écolos, c'est juste une multinationale de l'énergie, mais qui dit bah si, c'est sans aucun problème, c'est facile. C'est une interview qu'a donné le directeur général adjoint de Engie, qui s'appelle Thierry Leperc, à Bloomberg. Il a expliqué, oh ben, c'est pas de souci, hein. La Côte d'Azur, où vivent 5 millions de personnes, il y a énormément de soleil. Du coup, on peut développer le photovoltaïque. Alors, ils se donnent une marge de manœuvre. Ils sont pas comme les militants écolos de Negawatt qui disent qu'il faut un certain nombre d'années. Ils se disent, d'ici 2030, on peut passer sur la Côte d'Azur, la région PACA, à 100% de renouvelables et ça coûterait 20% moins cher. Parce qu'aujourd'hui, le coût de l'installation du solaire, de l'éolien et surtout, ça coûte moins cher que l'électricité nucléaire. Alors, je vous parle des anciennes générations. Quand la nouvelle génération va arriver, c'est encore pire. Le coût du nucléaire de l'EPR est beaucoup plus élevé, de l'électricité. Donc voilà. Alors, ça confirme ce qu'on savait déjà. Mais c'est pas des écolos, c'est pas des militants qui le disent, c'est juste un fabricant d'énergie. Alors ils ont un rôle à jouer. Hein. On sait que Engie possède des centrales nucléaires en Belgique. Ils essayent de s'en débarrasser a priori. Bon, pour l'instant ils n'ont pas trouvé de repreneur. Alors il y a, on pourrait généraliser à toute la France. Là ils ont fait, c'est facile en PACA. Il y a tellement de soleil que c'est facile à faire. Mais il y a des chercheurs finlandais qui ont mis en ligne un outil pédagogique. Hein, ça s'appelle Global Internet of Energy Model. Et cet outil, bon, on rentre les coordonnées d'un pays, et en fait ça marche. Leur modèle montre que dans n'importe quel pays du monde, on peut être en 100% renouvelable. Donc c'est même pas que les endroits où il y a du soleil. Parce que les endroits où il n'y a pas de soleil, en général, il y a autre chose. Il y a soit de l'eau, soit du vent, soit de la géothermie, soit de la biomasse, hein, qui est très peu développée chez nous. Voilà. Bon, c'est une bonne nouvelle, on le savait, mais c'est confirmé par une multinationale. Alors toujours dans le nucléaire, TEPCO, vous savez, c'est ceux qui ont la centrale de Fukushima, là. Enfin, les centrales, les réacteurs qu'on pétait. Ils essayent de remettre en route une centrale nucléaire qui s'appelle Kashiwazaki Kariwa. C'est la plus grosse centrale nucléaire du monde. Hein. C'est un gros truc. Hein. Et ben, ils arrivent pas bien. Parce que le gouverneur de la préfecture de Niigata, dans lequel se situe cette centrale nucléaire, qui vient d'être élu, il s'est fait élire sur une campagne anti-nucléaire, il dit non, moi j'en veux pas. Moi, je veux pas que vous redémarrez. Moi, vous pourrez redémarrer quand j'aurai une explication détaillée des causes réelles de la catastrophe de Fukushima et quand on aura un nouveau plan d'évacuation et des conséquences sanitaires réévaluées en cas d'accident nucléaire. Donc, du coup, ils essayent de bloquer et pour l'instant, TEPCO n'arrive pas à redémarrer cette centrale par les blocages politiques. Et on sait que c'est important pour TEPCO parce que eh ben, c'est une grosse centrale et que TEPCO, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de vendre de l'électricité. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour TEPCO. Puis je crois que c'est la fin de ce Canu Info. J'ai deux petits trucs dans l'agenda. Donc un appel à rassemblement antifasciste samedi prochain, place Raspail dans le 7e, c'est à 15h. Organisé, alors je sais pas qui organise, mais les signataires c'est Alternative Libertaire, Groupe Antifa de Lyon et environ, les jeunes communistes. Bon, bref, vous y allez si vous êtes des vrais militants parce que je suis pas sûr que ça bastonne pas avec soit des fachos, soit surtout des forces de l'ordre. Hein, quand on les a vus, place Colbert, aujourd'hui faire des rassemblements ou des manifs antifascistes, c'est pas facile avec les forces de l'ordre.
Je crois que ça a jamais été facile en fait.
Oui, ouais, c'est vrai.
Peut-être. Les antifascistes n'auront jamais la paix.
Donc vous y allez pas avec les enfants en tout cas. Mais on se rappelle de 2001 où on manifestait en famille, mais c'était une autre époque. Contre les fascistes. Et sinon, samedi, à 15h à La Griffe, rencontre débat autour du livre qui s'appelle « Refuser de parvenir ». C'est publié par le CIRA, le Centre International des Recherches sur l'Anarchisme, à la librairie La Griffe, rue Sébastien Griffe, métro Saxe-Gambetta, dans le 7e samedi à 15h. Donc vous choisissez soit faire un rassemblement antifa, soit aller à la griffe parler d'anarchisme.
Et sinon, ben, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous acheter le Charlie Hebdo de cette semaine et puis rester dans votre canapé ou aller au bistrot et le lire. C'est une très belle une, moi j'aime beaucoup, je ne suis pas très fan, hein, vous savez, moi du cul des bites de Charlie Hebdo. Par contre, ça me fait toujours marrer malgré tout. Mais là, la une, moi je la trouve vraiment très chouette et puis le contenu est vraiment très intéressant, des articles à lire, donc si vous ne l'avez pas encore fait.
Voilà. C'est très axé contre la religion, bien évidemment, parce que c'est le triste anniversaire des deux ans de l'assassinat par des croyants, de militants et de dessinateurs, de correcteurs, de toute...
Ouais, il y a des textes très intéressants, moi, je trouve. Ouais. Des longs, des courts, voilà, c'est vraiment un moment agréable. Et ça met de la force un peu, quand on lit ça.
Eh ben, rendez-vous la semaine prochaine pour l'équipe du jeudi. Demain, 19h, pour l'équipe du vendredi. On vous laisse en compagnie de la rediffusion de Papillon, qui va arriver d'ici quelques secondes.
Eh ben, on vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao.
Bye, bye.